Monseigneur Edmond Vanstenberg, 1881-1943, et ses justes combats dans le diocèse de Bayonne-Lescarré-Oloron au cours des années sombres 1939-1943. Voici la seconde et dernière partie de cette conférence passionnante de Ricardo Saez, professeur émérite de l'Université de Pau, conférence enregistrée le 16 juin 2018 à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte. Monseigneur Edmond Vanstenberg est né dans le département du Nord à Wynnesel le 26 avril 1881 et mort à Bayonne le 10 décembre 1943. Le 6 octobre 1939, au début de la drôle de guerre, Edmond Vanstenberg est nommé évêque de Bayonne, succédant à Monseigneur Houbault. Il est sacré à Lille le 10 décembre 1939 par le cardinal Liénard et intronisé à Bayonne le 21 décembre 1939. Le diocèse de Bayonne se trouve en zone occupée et même interdite dès juin 1940. Monseigneur Vanstenberg publie une protestation en première page du bulletin diocésain le 20 septembre 1942 contre la déportation des Juifs, à l'instar d'autres évêques de France comme Gerlier, Saliège, Moussaron, Delay ou Théas. Les autorités d'occupation interdisent le bulletin diocésain et surveillent désormais l'évêque. Son vicaire général, Monseigneur Daguzan, est déporté à Dachau. En mars 1943, il dénonce le service du travail obligatoire, le STO. Monseigneur Vanstenberg meurt subitement alors qu'il allait célébrer la messe le matin du 10 septembre 1943 à l'âge de 62 ans. Monseigneur Edmond Vanstenberg et ses justes combats dans le diocèse de Bayonne-Lescarré-Oloron au cours des années sombres 1939-1943, voici la seconde et dernière partie de la conférence de Ricardo Saez.
Je ne sais pas si vous avez lu un très beau livre de Thomas Mann qui s'appelle « Merfart, mythe Don Quixote ». Ça veut dire, en français, « voyage, traversée avec Don Quichotte ». Thomas Mann, dans les années 1938-1939, prend le bateau à Boulogne-sur-Mer pour quitter l'Allemagne via la France. Et il a, au cours de cette traversée, une lecture de choix qui est le Don Quichotte. Et puis, si vous avez lu le Don Quichotte, à la fin de la seconde partie, la première est de 1605, la seconde de 1615, il y a un passage magnifique, chapitre 64, qui relative à l'expulsion des Morisques. Voilà. Et lorsque Thomas Mann arrive à ce passage, il comprend que ce qui s'est passé en Espagne en 1609-1614, et le temps qu'il a fallu pour expulser 300 000 Morisques, c'est effectivement ce que lui vit en Allemagne, puisque cette population se vide. Parce que des tas de gens sont effectivement poussés à l'exil. Et il comprend tout de suite en lisant ce chapitre. Donc, cette espèce de similitude, même si les temporalités sont différentes, entre le passé et le présent. Eh bien, c'est le même cas ici pour les Allemands. Donc, Monseigneur Vanstenberg va tirer de son savoir biblique un texte qui porte, qui est le livre 5 de Daniel. Le livre 5 de Daniel donc institue un rapport tissé entre le passé et le présent, puisque Daniel est un prophète déporté, et la situation que subit la France à l'époque donc est celle que nous dit, que nous raconte effectivement ce passage du livre de Daniel. Et ce passage rappelle la condamnation et la malédiction biblique pesant sur les nations qui se sont livrées à des actes d'exaction, au sacrilège et à l'iniquité, au paganisme et à la terreur répandue sur l'Europe par l'Allemagne. L'évêque ne sollicite pas un texte que l'on sollicite toujours, qui est le Super Flumina Babylonis, qui est le chant de l'éploration de la déportation des Juifs. Non, il va solliciter un autre texte, et celui effectivement de l'auguste figure du prophète Daniel, car celui-ci, fils de la captivité, a placé comme les prisonniers. Donc, a placé son espoir non dans la force du roi Balthazar, dont le père Nabucodonosor a déporté, après avoir brûlé le temple de Jérusalem, les Israélites à Babylone, mais dans la foi inébranlable d'un Dieu qui n'a jamais abandonné ses fils dans l'épreuve et les tribulations. C'est cette fidélité à l'Éternel qui élève le prophète Daniel au rang d'un personnage à tous égards paradigmatique. En effet, il y a une scène qui est racontée, qui est celle du festin, au cours de laquelle le roi Balthazar profane les vases sacrés qui sont venus de Jérusalem, qui ont été pillés dans la maison de Dieu en se livrant à une orgie effrénée avec ses officiers, ses épouses et ses concubines. Et l'Écriture révèle que pour confondre le roi de sa folie et de son aveuglement, les doigts d'une main mystérieuse sur le mur blanc ou la muraille blanche du palais vont écrire trois mots qui peuvent nous paraître sibyllins. Méné, répété, il est deux fois cité, Tekel et Phares. Et le roi, voyant cette main qui écrit, en est profondément troublé. Il fait donc venir les savants, les maths, les astrologues de sa cour, afin de déchiffrer le sens de tel mot. Et face à l'incompétence avérée de ses serviteurs, il fait mander Daniel, qui lui est demeuré dans l'esprit des dieux, qui est le seul capable d'interpréter la signification de ces trois termes mystérieux. Que recouvrent ces trois termes ? Ces trois termes recouvrent le sens suivant. Le premier, méné, réitéré, il est prononcé deux fois, signifie « Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin ». Le second, tekel ou tessel, fait savoir que le roi a pesé fort peu dans la balance divine. Le troisième, Phares, annonce que le royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Partes, ce qui arrive effectivement puisque Darius le Mède s'empare de l'ancien royaume du roi Balthazar. On soulignera l'exactitude parfaite, c'est la prophétie dans la prophétie, puisqu'il dit dans ce texte, de façon indirecte, Vichy, Laval, peut-être Pétain, Hitler verront effectivement l'effondrement de ce qu'ils ont construit. Voilà. Les Allemands comprennent, peut-être parce qu'il y avait parmi eux des gens, il y avait pas mal de protestants, catholiques aussi, connaissant la Bible, c'est à ce moment-là qu'ils se sentent effectivement interpellés, qu'ils quittent donc la cathédrale et donc l'assemblée et donc cette allocution. On a connaissance, et je vais m'arrêter là bientôt pour ça, d'un document de l'impact que ce texte de Wastenberg a eu sur Pau. Alors, je suis obligé de laisser de côté toute la partie héroïque de Daguzan sur Béarn, mais du censeur régional des Basses et Hautes-Pyrénées qui, le 22 avril, après avoir alerté la censure centrale, parce qu'il envoyait des lettres à tout bout de champ, la censure centrale saisit le procureur Masselin pour savoir si les propos subversifs tenus par le prélat, c'est-à-dire Mgr Wastenberg, ont déclenché à l'encontre de l'évêque de Bayonne des poursuites par le parquet de Bayonne. Et on apprend que des rapports officieux émanant des autorités allemandes ont été envoyés au Vatican et à Fernand de Brinon, ambassadeur de Vichy à Paris. Alors, on a dit effectivement que Mgr Wastenberg avait des choses à se reprocher. Ce qui est intéressant chez cet évêque, c'est qu'il est, comme l'ensemble du clergé, peut-être de l'Église, dans l'unanimisme et la vénération face au maréchal. Ça a été le cas le 6 et 7 novembre pour Saliège, lorsque Pétain vient à Toulouse. Et le 7 à Montauban pour Théas, lorsque effectivement Pétain arrive à Montauban. L'une des raisons pour lesquelles Wastenberg est tombé dans l'oubli, c'est parce qu'il n'a pas connu, je crois, un petit peu, enfin, Théas sera conduit au fort de Royalieu, mais ça s'arrête là. Il n'ira pas au-delà. Mais d'autres évêques tels Mgr Piguet de Clermont-Ferrand, maréchaliste tout au départ, lui ira à Dachau, de même que d'autres évêques. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'effectivement, Il est en manque d'héroïsme parce qu'il est mort avant la libération. Je pense que s'il avait vécu la libération, même s'il a reçu effectivement une médaille très très importante en 1945-1946, c'est effectivement cette mort d'une crise cardiaque donc qui plombe un petit peu la non-notoriété, pourrons-nous dire, de Mgr Vasseur. Dire comme on l'a écrit qu'il était isolé, je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai eu deux témoignages l'autre jour qui sont très intéressants. Alors sur Pau, il n'a pas du tout été isolé. Bien au contraire. Il a été tout à fait appuyé. Puisque ce département est le seul département, à ma connaissance en France, qui ait levé deux protestations contre les lois anti-juives. Une par l'Averroque, une lettre merveilleuse qui aura les honneurs, alors que cette publication est interdite, des cahiers clandestins du témoignage chrétien, le 6 septembre 1942, très très belle lettre contre les lois anti-juives, et une autre, là c'est un groupe de prêtres, le groupe de la charrette pourquoi? Parce que comme au temps de la Révolution, ils étaient menacés d'être conduits sur la charrette à l'échafaud. Donc, et ensuite, effectivement, Vasseur, quelques jours plus tard, le 20 septembre, et il clôture ce cycle de critiques face aux lois néfastes anti-juives de Vichy, le 20 septembre. Donc dire qu'il a été isolé, je ne le crois pas. En tout cas, pas sur la place de Pau. Et on m'a dit l'autre jour que sur la place de Bayonne. Alors on m'a dit, des vieux prêtres sur Bayonne m'ont dit que c'est un évêque qui a été assez solitaire, assez isolé. J'étais content l'autre jour du témoignage suivant, c'est que effectivement, il jouissait de l'admiration de nombre de Bayonnais, mais, a-t-on ajouté, en privé. En privé. Voilà. Je tiens à le souligner. Alors, ce texte est un texte magnifique et je me suis penché sur le petit fond que Madame Ghislaine Savary a avec patience et compétence rassemblés à Bayonne, il y a un petit fond Vasseur. Il est très intéressant. Très intéressant parce que Vasseur a été au courant de tous les grands textes qui ont traversé l'opinion et tous les grands textes qui ont été produits par l'Église. Tous, ils sont dans le fond Vasseur à Bayonne. Ce qui veut dire qu'il était très bien informé, qu'il était d'une grande lucidité et qu'à aucun cas cette bataille menée contre les Allemands a été une bataille aveugle. Alors, il a été au courant de tout ce qui s'est fait pratiquement contre le STO. Il était au courant de la condamnation le 19 février 1943, bien avant sa prise de position, deux jours après la publication de la loi du STO le 17 février 1943, de Radio Vatican, et notamment Radio Vatican qui était animé par les jésuites. Et les jésuites qui disent « L'Église n'accepte pas les régimes bâtis sur le travail forcé, ni sur le déracinement des populations, ni sur les déportations collectives ou individuelles, sur l'expropriation des peuples, ni sur la dispersion des familles. » Ce texte, il le connaît parfaitement. Connaît parfaitement des textes qui ont été rassemblés en une très belle thèse par un grand historien qui nous a quittés, comme souvent les grands, très tôt, René Michel, thèse remarquable sur les catholiques en démocratie, où sont analysées toutes les contradictions dans un collège jésuite d'Avignon au mois de mars-avril 1943. La GEC, la JOC, la JF, etc., etc. Donc, ce texte aussi, il le connaît. Il connaît également un texte qui a beaucoup circulé, élément d'information, abondamment diffusé par l'Association catholique de la jeunesse française, c'est association, et non pas ce que l'on trouve souvent dans les textes. Donc, il récapitule donc toutes ces luttes à l'intérieur de l'Église. Si je dis ça, c'est parce que Laval va essayer de tirer argument et pouvoir justement de ces divisions au sein de l'Église face au STO. Il a, bien sûr, dans ce fond, les deux beaux articles d'Achille Liénard qui ont libéré la conscience des requis du STO, puisqu'il nous dit « Personne ne peut accorder sa collaboration à des actes d'injustice. Si la demande de collaboration demande des sacrifices de vous, alors soyez fort et persévérant dans l'assurance, bon, vous n'avez fait que votre devoir. » Mais il nous dit également qu'il ne tient pas pour quelque chose de tout à fait, obligatoire, donc de partir. Je ne dis pas que ce soit un devoir de conscience d'accepter le service obligatoire du travail. On peut donc s'y dérober sans péché. Je n'ai pas davantage à vous conseiller le départ. Nous sommes devant la contrainte. Voilà, vous savez qu'il a eu un premier discours malheureux. Et la presse a dit Achille Liénard, qui avait défendu les ouvriers, est vendu. Et tout de suite, une semaine après, il va rectifier. Et il dit, bien sûr, ce n'est pas un devoir de conscience que d'accepter donc le service obligatoire du travail. Également, il connaît parfaitement tous les numéros du mois d'avril, mai, juin, du témoignage chrétien. Et des cahiers clandestins du témoignage chrétien. Et un texte merveilleux, c'est le dernier, que je vais citer, un texte merveilleux d'un jésuite, pas n'importe qui, le père Jules Le Breton. Alors, Jules Le Breton est un personnage très intéressant, car il est tombé aujourd'hui dans l'oubli, c'est comme ça. Un texte qui a circulé, qui est un très beau texte, « Consultation sur quelques cas de conscience », qui est de 1942, aux catholiques de France, par l'occupation allemande, que l'on doit à ce jésuite, qui, pas n'importe qui, professeur à l'Institut catholique de Paris et ancien rédacteur de la prestigieuse revue Études, la grande revue des jésuites. On sait que ce théologien, sans mandat, vous savez que l'une des raisons pour lesquelles tous ces gens ont été mis au banc des évêques, des théologiens, c'est parce qu'ils n'étaient pas évêques. La seule parole qui prévalait, c'était celle des évêques. Donc on les a discrédités en disant de Lubac, Chaillé et compagnie, mais Fessard sont des théologiens sans mandat, donc ne faites aucun cas de ce que l'on peut vous dire. Alors lisez le très beau livre du père Henri de Lubac, Résistance au nazisme, résistance à l'antisémitisme, et vous verrez qu'il fallait bien les écouter. Donc tout de suite, on va les stigmatiser en leur collant cette étiquette, ce sont effectivement des théologiens sans mandat. Eh bien, ce théologien sans mandat, ferme opposant aux idées maurrassiennes, a non seulement stigmatisé le danger de la vassalité spirituelle de la foi chrétienne gangrenée par le poisson nazi, mais il a surtout insisté dès l'automne 1942 sur la condamnation des rafles d'ouvriers condamnés aux travaux forcés, la relève, et qu'il compare à un embauchage immoral. Voilà. Donc tous ces textes se trouvent dans le fond Wassenberg. Voilà. C'est dire à quel point il a suivi ce dossier et à quel point il va continuer de le faire vivre. Alors, c'est la quatrième partie, qui est une partie un petit peu neuve, parce que je suis tombé sur des archives nouvelles. Quand on fait de la recherche, il y a toujours quelque chose de formidable, ce que bien souvent, il y a au bout du chemin une surprise. On découvre de nouvelles choses. Voilà. Alors, Laval tient à l'œil Wassenberg. Premièrement, parce que c'est un récidiviste. Non seulement il a protesté contre les lois anti-juives en 1942, mais le voilà qu'il est sur le devant de la scène en 1943. Faut le faire taire. Pas possible. Alors, il va se passer un certain nombre de choses que je vais décrire, qui sont les suivantes. Nous avons à Bayonne un fonds, et je m'étonne que les historiens ne l'aient pas du tout exploité avant moi, qui ait quitté le département pour aller à Rennes, où j'ai exercé comme professeur, dont je me suis éloigné, géographiquement parlant, pas par le cœur, cela s'entend. Nous avons les fameuses visites pastorales. Or, en 1943, C'est l'année, tous les 5 ans, des visites pastorales. Et elles sont alignées parfaitement dans le fond documentaire donc de l'évêché de Bayeux. Elles correspondent à l'année 43. Monseigneur Wassenberg va effectuer donc une visite, c'est le vieux terme qui veut dire une inspection. Et voilà ce que ça veut dire. Donc il va visiter, il va inspecter les paroisses. Et vous savez qu'au terme de l'inspection, les prêtres titulaires des paroisses envoyaient donc un document. Tous ces documents sont archivés. Et l'on sait que au début du mois d'avril, Mgr Wassenberg est à Pau. Visite la paroisse de Meillon, visite Saint-Martin, visite Saint-Jacques, etc., etc. Et qu'il va effectivement, en l'église Saint-Jacques, très tôt, le 9 avril, lire de nouveau une lettre qu'on a appelée la lettre des trois archevêques, c'est-à-dire Liénard, Gerlier et Suard. Cette lettre, qui est la lettre adoptée par l'ACA, ce qui est devenu aujourd'hui la conférence épiscopale, et qui prend effectivement position contre le STO. Et ça ne s'est pas arrêté. L'Église continue de dire halte au STO. Et nous avons connaissance de cette intervention de Mgr Wassenberg par le censeur donc régional, qui lui assistait à la messe et qui tout de suite a envoyé une lettre au préfet en disant « Mgr Wassenberg a lu, sans commentaire, la lettre des trois cardinaux. » Cette lettre, les différents diocèses de France ont été très réticents à la faire lire. On sait par exemple qu'elle n'a pas été rendue publique à Toulouse, Saliège, à Montauban, Théas, à Auch, alors qu'elle l'a été à Pau, à Tarbes, à Jeun et à Albi. C'en est trop pour Laval, que de nouveau cet individu qui s'appelle Wassenberg lise et lue la lettre des trois cardinaux, et donc il considère ceci comme une provocation et un défi manifeste contre la politique de Vichy relative au SCO de la part de Wassenberg. C'est alors qu'entre en scène un nouveau personnage. Je n'ai pas apporté, parce que j'avais plus de place dans ma sacoche, l'ouvrage que le préfet Grimaud, préfet des Basses-Pyrénées, qui nous a laissé à peu près 168 pages sur son passage à Pau comme préfet, donc dit dans ces pages. Alors, intervient ici un personnage nouveau, qui est le préfet Grimaud. Le préfet Grimaud sera déporté en même temps que Daguzan et 9 autres personnes, enfin 7 autres personnes parce qu'ils sont 9, le 11 juin 1944, ils sont raflés à Pau. Cet homme a des ennemis jurés sur la place de Pau, c'est la milice. Voilà. Et il va partir en déportation, il reviendra. Mais il est parti lui-même de son propre chef à Vichy pour parler avec Laval, s'entretenir avec Laval, des difficultés qu'il a sur la place de Pau avec la milice. Et à cette occasion-là, Laval lui dit « Écoutez, votre venue tombe pile poil, je parle comme Chirac, pile poil, puisque je vais quand même vous confier une ambassade qui est l'ambassade suivante. » Et nous avons le texte laissé par Grimaud. Laval lui dit, autre chose, reprit-il, c'est important, très important. Je vous demande, dès votre retour à Pau, de voir l'évêque Monseigneur X, c'est-à-dire Wassenberg, vous lui direz qu'il m'emmerde. Vous m'entendez bien, et s'il ne change pas immédiatement son comportement, je ne répondrai pas du risque qu'il court, il sait de quoi il s'agit, bien. « Monsieur le Président, votre commission sera faite, mais accordez-moi un petit crédit de temps, car je ne puis franchir la ligne de démarcation, car vous savez que la ligne de démarcation, contrairement à tout un mythe que l'on trouve dans les manuels, n'a pas été abolie le 11 novembre 1942, hein, lorsque la partie non occupée est occupée. Elle reste encore en activité jusqu'au mois de mars 1943. Bien. Et Monseigneur Roch en savait quelque chose. Donc il lui dit, l'évêque ne vient que très rarement à Pau, parce qu'on lui donnait au compte-goutte des Ausweis pour qu'il aille à Pau. Il y allait uniquement pour les confirmations. Arrangez-vous pour le voir quand même, et le plus tôt possible, et vous me rendrez compte, reprit-il en me serrant la main. Voilà ce que nous raconte l'ami Grimaud. Des circonstances favorables vont faire que ils vont se rencontrer très vite à Pau, puisque Mgr Vastenberg fait sa tournée pastorale et qu'il est à Pau au début du mois d'avril. Grimaud, donc, bon ambassadeur, il tire la couverture à soi, faisant valoir ses capacités, bien sûr, de fin diplomate, bon, etc., etc. On n'est pas tombé dans la dernière pluie, donc on se lire un petit peu entre les lignes. Hein. Va le voir et il entre en contact, effectivement, avec le prélat, avec Vastenberg. Il se trouve que de cette ambassade, nous avons le texte de 1943 et le texte que Grimaud a écrit plus tard, en 1972, 2 ans avant de mourir. Ils ne coïncident pas tout à fait. Vous savez, c'est comme la version latine. Hein ? Ça ne coïncide pas tout à fait. Même lorsqu'on est allé, effectivement, les copier, bon, aux belles lettres, bon, patati patata, ça ne coïncide pas tout à fait. Ben, là, c'est le cas. Et alors, donc, au cours de cet entretien, voilà, hein, le compte-rendu suivant. « Monseigneur, lui dis-je, c'est Grimaud qui parle, le président Laval m'a chargé tout spécialement de vous prévenir qu'il serait opportun et urgent que vous apportiez quelques ménagements, comme cela est bien dit, hein, à une attitude politique qui, paraît-il, irrite les autorités allemandes. » Il ne dit pas « irrite Laval », les autorités allemandes. Vous voyez, hein, tout ça, c'est bien politique. Hein. Donc, un peu de réserve éviterait au président les inquiétudes qu'il a à votre sujet. Voilà. Hein, bah. Vastenberg, et nous connaissons la réponse de Vastenberg, elle se trouve aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, va lui dire en substance ceci, il, Mgr Vastenberg, donc m'a exposé, dira Grimaud à Laval, qu'il n'ignorait rien du climat favorable créé depuis longtemps autour de lui par certaines personnes de la Société française de Bayonne qui auraient désiré lui voir prendre une part active à la propagande de collaboration qui ne lui a pas paru compatible avec le caractère essentiel de sa mission. Et il va lui dire, vous remercierez bien sûr Laval qu'il vous est envoyé jusqu'à moi. Mais dites-lui, je vous en prie, que mon état effectivement épiscopal ne me permet pas, bien sûr, de franchir ce pas. Je ne sais pas si Grimaud a compris l'ironie de notre ami Vastenberg, qui, lui, s'appuie sur un socle qui ne passe pas, qui est le socle, bien sûr, d'un carré de valeur, donc spirituel, dans lequel il a puisé la solidité de sa foi. Donc il lui dit, vous pouvez partir et dire bien sûr à Laval que tout ceci m'indiffère. Voilà ce qu'il lui dit, grosso modo. Il se trouve que le dernier article, il en a écrit beaucoup, il a été un grand spécialiste de Nicolas de Cuse, mais également de Gerson. Le dernier article écrit par Mgr Vastenberg en 1939 est un article sur Gerson, sur un document, très beau document, lettre inédite de Jean Gerson, réformateur de l'Église à la fin du Moyen-Âge, et qui dresse le portrait de l'évêque idéal. C'est son dernier article, qui est magnifique, qui est déposé dans le fonds Vastenberg à Bayonne, et dans lequel il va dire un certain nombre de choses qui sont, je crois, tout à fait le miroir apostolique de Vastenberg. Je vous cite quelques passages. Dans ce dernier article qui clôt l'activité scientifique, sorte de miroir de lui-même, l'érudit, qui se nourrit non de la lettre, mais de l'esprit qui la vivifie, s'est inspiré des vertus qui reviennent en propre à tout prélat évangélique. L'évêque, dit-il, mais il trouve ça chez Gerson, se doit d'être prêt à exposer non seulement ses biens, mais sa vie. D'être le refuge et le père de tous les malheureux, avant de conclure en affirmant qu'il sera un homme intègre, juste et pacifique. De ce programme, situé dans le passé, Mgr Wassenberg tire la force actuelle de sa résistance, ne séparant jamais la parole engagée du témoignage incarné qui la matérialise. Alors la dernière partie, alors je suis obligé de laisser de côté un certain nombre de choses, la dernière partie je l'ai intitulée « Un évêque, sèmeur de résistance ». Le dernier épisode de Wassenberg est à la semblance même de son apostolat. Quel est-il ? Il va refaire surface et grâce à l'abbé Goïti, je me suis beaucoup informé là-dessus, il va être héroïque dans sa ligne de conduite. Vous savez qu'en 40, le grand séminaire est occupé par les Allemands. Que fait Wassenberg ? Il envoie les séminaristes à Toulouse, les fameux Pionziens, au séminaire Pionze. Bien. Donc, des séminaristes, ici, il n'y en a pas, ils sont à Toulouse. À Toulouse, Wassenberg connaît bien quelqu'un qui lui sera déporté, Bruno de Solages. Alors, j'attire l'attention parce que, sur une chose, on comprend très mal tout ça. Michelet, dans un ouvrage en 1955 qui s'appelle « Rue de la Liberté », se dit étonné que les premiers à entrer en résistance soient effectivement les démocrates chrétiens. Et quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, mais il n'y a pas de communistes. Je dis, bien sûr que non, il y avait le pacte germano-soviétique. Donc les premiers à entrer en résistance, c'est les démocrates chrétiens. Il y a un professeur de l'université de Lille, Bruno Bétouard, d'Arras, pardon, qui a très bien travaillé là-dessus. Or, Bruno de Solages accueille une quarantaine de séminaristes à Toulouse. Et puis, en 42, bon, il y a l'occupation au mois de novembre, hein, la France est tout à fait sous la botte allemande, et en 43, l'instauration du STO fait que peu à peu, Mgr Wassenberg rapatrie ses séminaristes sur Saint-Jean-Pied-de-Port, Collège Mayorga, les philosophes et les théologiens du grand séminaire de Bayonne à l'institution Luro à Ispourg. Voilà la première des choses. Mais le STO continue effectivement d'agir. Il y a des rafles. On en connaît une sur Pau. À tel point que la tension monte dans la gare de Pau, on prend les reculs du STO, on les amène à Assat, où ils prendront le train, et les familles les attendent sur le pied de la gare, ils vont repasser 3 heures après, pour qu'il n'y ait pas une sorte d'émeute en gare de Pau. Et nous sommes très très bien renseignés sur ces conditions de départ. Il n'échappe à personne que... En 1942, et cette lettre se trouve dans le fonds Wassenberg, l'abbé Rodin, qui était l'aumônier général des prisonniers de guerre, a fait une demande à Mgr Wassenberg, l'invitant à proposer des prêtres pour les envoyer en Allemagne. L'Église a eu l'idée, c'est surtout Suard, mais qui a été roulé dans la farine, puisque le 3 décembre 1943, le décret Kaltel-Brunner interdit, bien sûr, toute présence d'ecclésiastiques en Allemagne, parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, ce qui était évident, que la religion est un ferment de résistance. Il faut quand même être grand clair pour le savoir. Bien. Donc ça ne va pas marcher. Donc que va faire Wassenberg ? Stromberg est face, effectivement, à quoi? À un problème qui est le suivant. Les séminaristes sont requis. L'Église va protester contre qui? Contre Bérard. Une chose qu'on ne sait pas. Bérard est intervenu à Rome, où il est arrivé au mois de novembre 40. J'ai relu hier soir les éphémérides de Pierre Limagne. Bon, on a tout, tout ce qui se passe à l'époque. Et il va demander au Vatican que les séminaristes soient exemptés. L'Église de France dit, mais c'est une hérésie. Comment pouvons-nous, nous, Église, nous couper de cette bataille? Et donc les séminaristes, il est prévu, s'ils ont moins de 23 ans, bon, ils vont partir. Donc il a 5 diacres qu'il aurait dû ordonner cette année. Mais que fait-il? Il va effectivement réclamer l'indulte et au lieu uniquement d'ordonner 5 diacres, il va ordonner tous les théologiens qui sont en deuxième année, qui n'ont pas fini leurs études de théologie, que l'on appelle la sous-classe, pour qu'ils échappent au STO. Pourquoi? Parce que le STO, c'est sous la contrainte. Voilà. Ça, c'est le dernier acte héroïque qui est magnifique de Wassenberg. Voilà. Au lieu d'ordonner 5, il va en ordonner, je crois, 35. Parmi eux, il y a Récabord, un palois, qui, lui, va dire sa première messe, justement, en 1943. Et au cours de cette messe, l'abbé Pambrin, au grand scandale de nombre de palois, dira effectivement que le STO, c'est effectivement du marchandage, du type capitaliste. Il ne dit pas le mot capitaliste, mais il doit le penser. Donc, Wassenberg, par cette action, va couvrir donc ces gens qui sont en deuxième année, parce que s'ils ne deviennent pas prêtres, et s'ils sont prêtres, ils peuvent partir, mais comme aumôniers, donc ils ne vont pas en courir. Donc, le travail obligatoire, et justement, comme il leur reste une année et qu'ils tombent sous le coup du STO, pratiquement un certain nombre d'entre eux, il va les ordonner. Donc, mobilisant pour ce faire, eh bien, ce droit qui existe dans l'Église, qui s'appelle l'indulte. Voilà le dernier, je crois, le dernier acte de lucidité, d'héroïcité de Mgr Wassenberg. Il ne fait aucun doute, à mon sens, que Wassenberg aurait connu le même sort, il aurait été déporté que d'Aguzan, si une mort prématurée, le 10 décembre, le jour même, de son 4e anniversaire de son sacre d'évêque à Lille, donc une mort relativement rapide, n'était venue effectivement nous l'arracher, l'arracher donc à son diocèse. Une mort donc brutale, et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point cet homme avouait donc au service de Dieu et des hommes et de sa patrie, et donc ses combats, ses justes combats. Aussi, la médaille de la résistance qui lui est décernée à titre posthume au mois de janvier 1946 rend, semble-t-il, pleinement justice à la mémoire de ses combats, injustement oubliés, mais dont l'actualité demeure, je crois, à tous égards intacte. Je vais finir par un certain nombre de documents que j'ai découverts il n'y a pas très longtemps. Certains, je les connaissais grâce aux mémoires de l'abbé Anat, que je pense bientôt publier. Je connaissais aussi, grâce à un mémorandum du censeur régional qui se trouve déposé aux archives départementales, mais j'ai poussé plus loin. Je suis allé voir aux archives, donc au ministère des Affaires étrangères, ce qui s'était passé entre la mort de Wassenberg et la nomination de Léon Albert Terrier. C'est assez intéressant. Le siège va rester vacant pratiquement pendant 8 mois. L'extrême droite a un appétit féroce sur ce poste, sur ce siège, et voudrait nommer des gens à elle. Nous connaissons 2 noms, je ne vais pas les citer, je m'interdis de les citer. Voilà. qui ont eu à un moment donné la préférence d'un secteur intransigeant de Vichy. Et puis, veille au grain, le nonce, Valérie au Valérie. Et puis ça s'estompe. Et puis on revient à la charge. Parce que Vastenberg meurt au mois de décembre, personne en janvier, personne en février, personne en mars, avril, mai, juin. Il faut attendre le 6 juillet 1944 pour que un nom sorte du chapeau, peut-être de Pie XII, et que, il y a un concordat, donc soit accepté par le ministère des Affaires étrangères. Or, entre-temps, il y a eu un certain nombre de noms qui ont couru. On a pensé à qui ? Beaucoup plus respectable que les deux autres que je n'ai pas voulu mentionner. On a pensé au père Denis Buzy, général des pères de Bétara. Voilà. Mais au dernier moment, il y a des clauses canoniques qui interviennent. Il n'est pas valable. Sa candidature n'est pas valable. On a pensé à quelqu'un que j'aime beaucoup. Beaucoup. Parce qu'il est venu, pendant les années noires de Vichy, se reposer sur les hauts de Gand, dans un château qui s'appelle Bernat Or, Bernard le Forgeron. C'est Monseigneur Louis Courrèges d'Houstoux, qui a été, comme vous le savez, le bras droit d'un homme impossible, qui était sa liège. Bien. Et comme vous le savez, il a beaucoup fait pour les Juifs. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement Monseigneur d'Aguzan, très très bien Monseigneur d'Aguzan, et on a pensé à lui. Et la famille Courrèges d'Houstoux, possède un château sur les hauts de Gand, où Pierre-Emmanuel allait voir deux demoiselles, farouches lectrices de l'Action française, ce jeune homme, très disert, très créatif, très inventif, allait voir ces vieilles dames. Je connais ce château, je sais où était l'oratoire de Monseigneur Courrèges d'Houstoux, et puis au dernier moment, ça ne marche pas non plus. Mais, et c'est sur quoi je voudrais finir. Je crois que l'Église, à travers Pie XII, en nommant Léon Albert Terrier, rend le plus bel hommage post-mortem à Mgr Vastenberg. On a déjoué tous les pièges de l'extrême droite. Et on va nommer quelqu'un qui lui fait honneur, qui lui aussi a un passé de résistant, qui est donc Monseigneur Terrier. Et je pense effectivement que Pie XII, qui a nommé Monseigneur Vastenberg sur le siège de Bayonne, lui rend le plus bel des hommages en lui faisant effectivement, en faisant succéder à ce siège et à cet homme, à cette figure illustre, comme je pense l'avoir un petit peu montré, donc il soit son successeur sur le siège de Bayonne. Je crois que c'est une très belle histoire, très très belle histoire, je crois que c'est le plus bel hommage que l'Église pouvait effectivement rendre à cette illustre figure, injustement tombée, je crois, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, dans les oubliettes, dans l'injustice, l'indifférence, dans l'oubli. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, l'éclipse dans laquelle il a vécu s'éclaircira quelque peu. Je vous remercie de votre attention.
Monseigneur Edmond Vastenberg, 1881-1943, et ses justes combats dans le diocèse de Bayonne, Escar et Oloron au cours des années sombres 1939-1943. Vous venez de suivre la seconde et dernière partie de la conférence de Ricardo Saez, professeur émérite de l'Université de Pau, conférence enregistrée à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte le 16 juin 2018. Vous pouvez retrouver cette conférence dans son intégralité sur notre site internet www.lapourdi.net.